Cabès, non. J'ai fait l'interview avec Cabès, s'il te plaît. Non, mais je croyais que j'avais un carnet de notes, mais même pas.
Let's go.
Tu peux démarrer comme ça.
Si, si, si.
Bonjour à toutes et tous. On va commencer donc cette table ronde sur les récits de femmes engagées sur la question des violences sexuelles. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Nathalie Godard, je travaille à Amnesty International, qui est partenaire du Festival d'Avignon. On remercie particulièrement Thiago Rodriguez et toute l'équipe du Festival de nous donner l'occasion d'être là aujourd'hui et d'aborder des sujets importants. Aujourd'hui, donc, on parle des violences sexuelles et je fais un peu de teasing pour demain. Il y a également une table ronde à 17h qui s'appelle « Le rêve américain se fait-il encore et toujours aux dépens du noir américain ?» et qui abordera notamment la question de la reconnaissance faciale et des nouvelles technologies. Demain à 17h. Mais aujourd'hui, on est donc ensemble pour croiser des expériences de femmes qui, à partir de leur position, de leur travail, de leurs engagements, sont des passeuses, sont des recueilleuses de paroles de femmes survivantes de violences sexuelles ou de témoins. Et cette transmission de la parole, elle est déterminante dans la lutte contre les violences sexuelles, à la fois pour faire connaître, rendre visible, et puis pour agir, engager des actions militantes, des actions judiciaires. Et on va essayer d'aborder ces questions-là ensemble aujourd'hui. Je vais vous présenter nos intervenantes, en commençant par Carolina Bianchi. Bonjour Carolina, très, très heureuse de vous voir aujourd'hui.
Bonjour.
Alors Carolina parlera en portugais et sera traduite par Inès, que je remercie. Donc Carolina Bianchi est metteuse en scène de théâtre, dramaturge, interprète brésilienne et basée à Amsterdam. Elle est à la tête de l'organisation collective dont je vais très mal prononcer le nom, qui s'appelle Cara de Cavallo.
Cara de Cavallo.
Voilà, qui veut dire le visage du cheval. Et qu'il mêle les références littéraires, plastiques et cinématographiques pour se confronter au réel. Elle présente ici, à Avignon, pour son travail pour la première fois, avec une pièce qui s'appelle « La mariée et la drogue du violeur », si je le dis en français, mais qui se dit comment en brésilien ?
« A noiva e o boa noite, Cinderela ».
Voilà, une nouvelle création dont on ne sort pas indemne, qui est présentée jusqu'au 10 juillet au gymnase du lycée Aubanel, et qui parle notamment de la question des violences sexuelles, du viol, et notamment sur l'histoire de Pippa Bacca, une artiste plasticienne italienne, qui est morte en 2008. Notre deuxième intervenante, c'est Rugiata Sal, journaliste, data journaliste dans le collectif You Press.
Bonjour.
Qui est un collectif de journalistes pigistes indépendants créé en 2007. Alors, Rugiata, a fait des études de biologie, contre toute attente, et qui travaille aujourd'hui sur différents sujets, comme le travail, les inégalités sociales et de genre, ou les questions scientifiques, et qui anime aussi, par ailleurs, des ateliers d'éducation aux médias. Et Rugiata, tu es consultante aussi dans la production de fiction historique. Et le collectif You Press documente partout dans le monde les violences et inégalités subies par les femmes, et a notamment initié le travail « Femmes à abattre », publié dans Mediapart en 2023, au début de l'année, et qui parle notamment de la question méconnue des féminicides politiques. 10 journalistes ont analysé 287 meurtres dans 58 pays, et on parle d'une bombe à fragmentation au sujet de ce phénomène, et on y reviendra ensemble. Et notre troisième intervenante, que je suis heureuse d'accueillir aussi, c'est Laure Hennig.
Bonjour.
Avocate pénaliste au barreau de Paris, ancienne première secrétaire de la conférence du barreau de Paris, qui s'est notamment spécialisée sur les violences sexistes et sexuelles et défend à la fois des femmes victimes, leurs familles, et notamment certaines des femmes qui accusent PPDA dans les affaires dont on a entendu parler, et aussi des hommes qui sont mis en cause. Et Laure est aussi autrice de romans comme « Porter leur voix », sorti chez Fayard en 2014, et plus récemment de « Corps défendu » chez Flammarion en 2021, un roman dont le point de départ était le meurtre d'une femme, raconté du point de vue de l'avocate qui défend la famille de la victime. On y reviendra aussi ensemble sur ces questions-là. Je vais commencer, juste puisque je représente Amnesty International, par un tout petit peu parler du travail qu'on fait à Amnesty sur la question des violences sexuelles. puisqu'on s'est longtemps concentré sur le travail des violences sexuelles dans les pays en guerre, avec notamment tout le travail autour du viol comme arme de guerre, notamment dans les Balkans, et qui a permis, le travail dans les Balkans a qualifié cette pratique-là de crime contre l'humanité, puis de crime de génocide au Rwanda. On a beaucoup travaillé là-dessus et on continue à le faire aujourd'hui, notamment en Éthiopie, au Soudan et ailleurs. Et puis on travaille aussi dans d'autres pays sur les femmes cibles de répression ciblée en raison de leur genre, notamment l'Iran et l'Afghanistan, et notamment en Afghanistan sur la question des persécutions basées sur le genre que vivent les femmes afghanes. Et puis ailleurs dans le monde, les reculs manifestes actuels sur les droits des femmes et des minorités de genre qui nous amènent à mener des campagnes pour essayer de défendre notamment le droit à l'avortement aux États-Unis ou en Pologne, lutter contre les discriminations et puis nous tenir aux côtés des femmes qui demandent justice pour les féminicides, notamment au Mexique, où on est très engagé sur ce sujet-là. Mais que ce soit le travail en conflit, hors conflit, sur la question de discrimination, des violences, nous faisons un travail qui est parfois un peu similaire à celui que font les journalistes, c'est-à-dire qu'on commence d'abord par enquêter et par écouter les récits et essayer de les recouper et de démontrer les faits. Et on va essayer de peut-être reprendre ce fil un peu qui part de l'enquête, de l'alerte et de l'action aux côtés des femmes victimes aussi, qui sont vraiment des fondamentaux qu'on va essayer de garder un peu en fil rouge dans cette discussion. Je vais commencer avec une première question pour venir un peu sur la notion du récit et de l'histoire des femmes victimes de violences, sexuelles. Puisque c'est ça un peu qui est au cœur au départ de notre démarche, pour essayer de comprendre un peu comment on peut restituer sans trahir l'histoire des femmes victimes de féminicide ou des femmes survivantes de violences sexuelles. Donc je vais m'adresser à mes intervenantes pour voir un peu que deviennent les histoires de ces femmes ou de celles qui sont survivantes ou de celles qui n'ont pas survécu. Et je vais commencer par m'adresser à Rugyata. Dans le travail d'enquête qui a été réalisé par le collectif YouPress sur ces féminicides politiques, pourquoi avoir choisi d'enquêter sur cette forme très spécifique qu'est le féminicide politique ? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ce choix s'est fait, comment les cas ont été aussi identifiés, quelle était la méthode un peu choisie, quelle était la démarche en fait du collectif autour de cette notion de féminicide politique ?
Alors c'est une enquête qui s'est construite en se faisant, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, il y a des membres du collectif qui travaillaient déjà sur un projet collectif qui s'appelait Zéro Impunity, sur l'utilisation du viol comme arme de guerre, donc en 2016. Et après, dans le collectif, il y a différentes journalistes qui travaillent notamment sur les agressions et les violences subies à l'hôpital. Sophie a travaillé sur les violences spécifiques subies par les femmes de policiers et de gendarmes dans l'armée, etc. Enfin, chacune travaillait un peu indépendamment sur ce sujet-là, et c'est une thématique qui a été choisie pour faire une enquête collective, pour rassembler nos forces et travailler tout ensemble pour collecter un maximum de récits et d'histoires. Et pourquoi les féminicides politiques ? Parce que en s'intéressant d'abord aux féminicides conjugaux pour certaines, on s'est rendu compte aussi que le féminicide politique était un angle mort, c'est-à-dire qu'on ne parlait pas de l'assassinat de militantes alors qu'elle commençait à percevoir qu'il y avait de plus en plus d'histoires qui étaient racontées un peu partout dans le monde. Et ça s'est fait en se construisant, en consultant les bases de données des ONG, notamment AWID et HRD, qui recensent tous les ans les assassinats de militantes un peu partout dans le monde pour leur rendre... hommage. Et nous, on a été regarder un peu toutes ces histoires pour voir les points communs qu'il y avait, notamment comment est-ce qu'on tuait spécifiquement ces femmes parce que c'était des femmes et parce que c'était des militantes pour tuer leur combat par cet assassinat politique. Et on a interrogé des chercheuses qui étaient spécialisées sur les violences spécifiques ciblant les femmes, et on a décidé de se baser un peu sur leur process intellectuel, et donc plutôt universitaire, hein, plus universitaire que journalistique, de regarder comment est-ce qu'on les tuait, donc est-ce que le mode opératoire était genré, pourquoi est-ce qu'on les tuait, est-ce que c'était parce que c'était des femmes et parce qu'elles étaient militantes, c'était la double condition, et aussi l'impact de ces assassinats aussi qu'on a observé à la loupe, parce que finalement parfois c'est un combat qui s'éteint parce que les militantes n'osent plus, parce qu'elles ont peur, ou parfois ce sont des graines qui germent et qui donnent plus de force à leurs sœurs de lutte qui reprennent le flambeau. Donc on a collecté des histoires, des récits dans la presse, dans les informations qui sont publiées par les ONG un peu partout dans le monde, et au fur et à mesure qu'on collectait ces histoires, on avait ce sentiment un peu étrange de déjà-vu qui nous a fait faire des ponts entre chacun des récits, parce qu'on se retrouvait avec un assassinat similaire entre une vieille dame de plus de 60 ans aux Philippines qui est leaduse communautaire et qui se bat pour protéger sa terre contre la grande méchante multinationale d'extraction minière, exactement comme en Colombie. Donc on a commencé à regarder un petit peu plus les points communs qu'il y avait entre elles, et c'est comme ça que s'est construit cette base de données. On a analysé plus de 500 histoires sur plusieurs années. On a travaillé plus de 3 ans sur cette enquête. Et le résultat, c'est que souvent, on n'a pas forcément assez d'éléments pour prouver, entre guillemets, que c'est un féminicide politique, parce qu'on manque de preuves à la fois côté justice et côté couverture médiatique, quoi.
Pour le qualifier vraiment de féminicide politique, il a fallu se restreindre, en fait, et dans votre enquête, vous avez abouti finalement à 82 cas que vous avez vraiment considérés comme répondant aux critères du féminicide politique, parce qu'il y avait et un mode opératoire et un motif qui était vraiment basé sur le genre.
Oui, c'est ça, et des preuves, et c'est une espèce de définition qu'on a créée finalement par nous-mêmes, et qu'on a confrontée à différentes chercheuses, des sociologues spécialisés sur les questions de genre, des juristes, d'autres journalistes, des ONG militantes, etc. Et c'est ce qui nous a permis de confirmer, entre guillemets, ces histoires et pas les autres, par manque d'informations, de preuves et de moyens.
Et ce que vous dites aussi dans l'enquête, c'est que finalement vous avez réussi à identifier ces cas-là, mais il y en a énormément certainement qui ne sont juste pas connus, et parce qu'une des volontés qu'on trouve derrière la féminicide politique, souvent c'est la volonté de rendre invisible aussi, et on le voit même dans certains modes opératoires où il y a vraiment une volonté de faire disparaître, et ça parfois aussi ça porte comme conséquence, parce que il y a la question de la petite graine avec certaines qui deviennent un combat, mais surtout il y en a d'autres où en fait ça aboutit à vraiment une vraie silenciation de l'action, quoi.
Oui, bien sûr, avec des mécanismes de silenciation et de, par exemple, exposition des corps des victimes dans l'espace public pour faire peur, ou ça va être des menaces sur la famille, les enfants, l'entourage, qui fait que la lutte peut s'éteindre dans certains endroits pour ces raisons-là. Et puis surtout, il y a très peu d'informations. Souvent, il y a un traitement médiatique qui est celui du fait divers et qui est unique, et il n'y a pas forcément de suivi derrière. Nous, dans toutes les histoires qu'on raconte, il y en a très peu qui atteignent le stade du procès également, donc on n'a pas accès à tout cette matière pour raconter leurs histoires jusqu'au bout, quoi.
Mais malgré tout, le travail que vous avez fait, ça permet de reconstruire un récit et de rendre aussi une certaine structuration, enfin de le rendre visible quand même, cette histoire-là.
Oui, c'est une démonstration du continuum de violence spécifique qui est subi par ces femmes militantes qu'on tue et parce qu'elles sont des femmes et parce qu'on veut les effacer de l'espace public. Et ça va, enfin voilà, la plupart ont reçu des menaces de mort avant d'être tuées, mais il n'y a pas eu d'action. Nombreuses ont été harcelées, cyberharcelées, même agressées avant d'être assassinée, mais il n'y a pas forcément eu de réaction derrière. Et donc c'est tous ces points communs entre ces femmes qui ne se connaissent pas, qui ne se sont jamais croisés, qui ne sont pas forcément dans les mêmes luttes. Il y en a, c'est le droit à la scolarité, d'autres, c'est les droits des femmes, d'autres, c'est le droit à la terre, d'autres, c'est le droit à la propriété. Leurs combats ne se ressemblent pas, leur vie quotidienne ne se ressemble pas, mais en tout cas, la manière dont on les tue et pourquoi on les tue, elle est très similaire.
En tout cas, j'encourage vraiment à l'assistance à aller voir cette enquête qui est publiée dans Mediapart, notamment, et qui montre vraiment l'ampleur du travail réalisé par YouPress sur ce sujet, qui est très, très marquante. Je vais me tourner vers Laure pour parler du récit dans la justice aussi, dans l'accès à la justice, puisque... je vais me dire qu'on s'est tutoyé, donc je vais continuer à se tutoyer, de ne pas faire semblant de se tutoyer devant le public. Donc tu accueilles dans ton cabinet, entre autres, puisque tu as une pratique plus large que ça, des femmes victimes de violences sexuelles ou des familles de victimes de féminicides. Et je voulais savoir un peu quel est ton regard d'avocate sur la manière dont les personnes victimes, leurs familles, sont aujourd'hui traitées dans l'accès à la justice, dans la manière dont leur récit est traité aussi. Et puis... quel rôle a l'avocate pour accompagner ce récit et pour passer d'une histoire qui est entendue qui est racontée à la preuve qui est nécessaire pour pouvoir accéder à la justice. Et c'est un épineux problème de passer justement de la parole à la preuve.
Oui, ça fait presque beaucoup de questions.
Alors tu peux serrer.
Dans une seule, mais effectivement, n'importe quel propos... Pour être entendu, pour convaincre, il faut le mettre en récit. Et ça, c'est juste quelque chose de général. Ça n'a rien à voir avec la justice en particulier, sauf que la justice, elle fonctionne comme ça aussi. Et elle fonctionne avec la cohérence. C'est-à-dire que quand vous écoutez un propos qui vous semble un peu incohérent, vous allez penser qu'il n'est pas vrai. Quand vous entendez une version, puis à la deuxième audition de cette personne, vous avez une autre version, vous allez penser que ce n'est pas vrai. Or, la vérité vraie, souvent, elle est incohérente. Pourquoi on tue? Pourquoi on viole? Je veux dire, personne n'a jamais pu répondre à cette question de pourquoi il a violé et pourquoi elle mentirait. Il y a des gens qui violent, il y a des gens qui mentent. Et donc, l'incohérence fait partie de la vie, mais elle ne doit pas faire partie du récit judiciaire pour convaincre. Donc, très bizarrement, nous, les avocats, on va tenter de gommer les incohérences. Évidemment, quand elles sont là, on va essayer de les expliquer par la vie. Mais de rendre un propos, parfois, bien sûr, quand on est victime, il y a derrière des phénomènes de répétition, de mise en danger, où on peut rencontrer une femme qui a été victime de viol une fois et puis qui va se mettre en danger et qui va être victime une deuxième fois. Et ça, il y a quelque chose qui se heurte au regard du juge, mais je le dis dans la globalité de la justice avec un grand J, sur l'incohérence d'un comportement, alors qu'en réalité, il est juste la preuve d'un trauma. Donc là, ça commence à être documenté avec l'aide d'intellectuels, de journalistes, avec des débats comme on a aujourd'hui et qui font que la société, y compris les professionnels, s'intéresse au comportement traumatique ou aux incohérences de la vie qui font que, bien sûr, quand on viole, quand on passe à l'acte, il n'y a pas un acte de réflexion derrière. Donc c'est difficile de le mettre en récit. Et les agresseurs comme les victimes ont du mal à raconter les choses derrière, mais c'est toujours ce qu'ils auraient reproché. Donc nous, notre travail pour les avocats, c'est souvent d'essayer d'aider la parole à se mettre en récit. Et à se mettre en récit d'une façon très spécifique, qui est celle de la preuve aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais qu'on perde de vue que la justice, ce n'est pas croire les gens, ce n'est pas juste penser que c'est crédible, c'est déjà ça, mais ce n'est pas juste ça, c'est aussi en trouver la preuve. Donc nous, on va tenter, lorsqu'on accompagne une femme pour déposer une plainte, qu'elle puisse donner toutes les informations pour que ce qu'elle dit puisse être recoupé. à quel endroit elle était, à qui elle en a parlé, ce qu'elle a, les traces potentielles évidemment médicales qui ont été là, les preuves sur le téléphone, une géolocalisation, etc. On va essayer de donner des éléments pour recouper matériellement les faits. Alors bien sûr, il y a une journaliste de Mediapart qui a écrit un livre là-dessus qui s'appelle « Faute de preuves » sur le viol, Marine Turki. C'est un crime de huis clos assez souvent, donc c'est le crime sans preuve. Donc ce qui fait qu'on entend souvent que ce crime-là n'est pas puni, et il y a un chiffre, on peut peut-être en parler tout de suite, qui circule beaucoup, dont on peut quand même se demander d'où il sort, qui dit qu'il y a 1% seulement des femmes qui ont déposé plainte qui voient leur procès aboutir à un jugement à la cour d'assises. C'est un chiffre qui est très étonnant, parce que même quand on lit le livre de Marine Turki, sur la fin, elle a répertorié des chiffres, et ce n'est pas celui-ci. Il semblerait que ce chiffre-là serait plutôt de femmes qui auraient été victimes de crimes sexuels, mais qui ne les auraient pas dénoncées. Donc, évidemment, si on ne dénonce pas, il ne risque pas d'y avoir d'aboutissement judiciaire. Donc, c'est vrai que c'est un parcours, on parle souvent du parcours de la plaignante, hein, c'est pas rien, mais on peut dire aussi que les choses s'améliorent considérablement, c'est toujours pas assez, donc on a envie d'aller avec des chiffres un peu faciles à dire, parce que bien sûr quand on va avec des punchlines comme ça, mais souvent on a que 2 minutes, donc je jette pas du tout la pierre aux gens qui vont sur les plateaux télé et balancer des punchlines en disant mais il y a que 1% des plaintes qui aboutissent à un traitement judiciaire, sauf que quand on dit ça, ben, on n'encourage pas les gens à déposer plainte non plus. Et on se dit, si j'ai 1% de chance à ce que ça aboutisse, mais pourquoi à part vraiment me donner en victime sacrificielle une deuxième fois, j'irai déposer plainte. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que, alors ça progresse doucement. Je me souviens d'un débat que j'avais fait avec un commissaire de police qui disait, oui, alors c'est vrai que le progrès est quand même assez lent. Nous, avant, on disait, quand les gens nous appelaient, il y avait un disque qui tournait pendant 10 minutes, et puis maintenant, il y a le disque qui tourne plus que pendant 5 minutes. Donc les progrès, vraiment, c'est juste très très lent. Là, c'est pas ça. On est quand même reçu globalement par des gens qui ont été formés, de plus en plus, avec toujours cet aléa humain, c'est-à-dire qu'on peut tomber sur quelqu'un qui a quelque chose contre les femmes, qui n'y connaît rien, parce qu'il a la volonté de rien y connaître non plus. Enfin, il y a toujours... Et ça devient quand même des exceptions. Le policier qui, comme on entend, ça avait fuité sur Mediapart d'ailleurs, un policier qui avait traité une plaignante de connasse parce qu'il avait laissé il avait oublié de raccrocher. Donc il y a toujours des moments où on est consterné de se dire, mais en 2023, en fait, ça fonctionne encore comme ça. Chez des magistrats aussi, chez des avocats aussi, où on peut encore avoir de temps en temps ce moment où on dit, mais enfin quand même, elle avait une jupe courte, donc c'est un peu normal que... Elle a été agressée sexuellement, ça arrive de moins en moins, ça progresse, mais il y a encore du boulot, c'est sûr.
Il y a quand même cette impression parfois que pour les violences sexuelles, plus que pour d'autres crimes, on commence par mettre en cause, c'est-à-dire que si je vais porter plainte pour cambriolage, on ne va pas commencer par me dire « vraiment, vous avez été cambriolé ?» Alors que si je vais porter plainte pour violences sexuelles, il peut y avoir cette mise en doute de la parole. En fait, au moment du
oui, alors dépôt ça, c'est, non, mais c'est qui est complètement, particulier aux violences sexuelles. Vrai, c'est complètement vrai. Je pense que historiquement, ça vient du fait qu'on met en doute la parole des femmes, que les violences sexuelles ont toujours été maltraitées par la justice. Il y a un livre qui est génial qui s'appelle « Sambre » d'Alice Géraud, que vraiment, pour le coup, je recommande, parce que c'est sur le fait divers de Dino Scala, le violeur de la Sambre, et donc qui a violé des femmes des années 80, pendant 30 ans en fait, des années 80 jusque récemment, où là il a été jugé et condamné, et on voit que toutes les femmes allaient déposer plainte dans des commissariats, donc en 1980, et elles racontaient l'agression sexuelle ou le viol avec la pénétration, et que quand les plaintes étaient prises, tout ce qui était sexuel était gommé. Donc il ne s'agissait pas, il fallait pas toucher à ça, il fallait pas dénoncer ça. Et donc on disait au mieux attentat à la pudeur ou violence ou harcèlement. Et donc les plaintes ne collaient pas du tout avec la réalité. Alors on voit dans ce livre, c'est ça qui est assez super aussi, c'est qu'on voit quand même le progrès qu'il y a, puisqu'il a fini d'ailleurs par être arrêté aussi par l'acharnement, l'acharnement de certains policiers, par les progrès de l'informatique, de l'ADN, etc., et aussi par les progrès de la compréhension humaine. Il n'empêche que le livre s'ouvre sur le procès qui s'est tenu l'année dernière et où l'une des plaignantes qui avait été déposée plainte, donc dans ces conditions-là, à qui on avait fait signer un procès-verbal qui ne correspondait pas du tout à ce qu'elle avait dit, et on savait tous que ça s'était passé comme ça, et où la plaignante commence à raconter les faits, et où le président de la cour d'assises regarde sa plainte et dit « mais en fait, ce n'est pas du tout ça que vous aviez déclaré ben, ». Évidemment, ce n'est surtout pas ça qui avait été noté, et où on voit cette femme qui est terrorisée et qui regarde son avocat et qui dit « mais quoi, c'est moi l'accusée ». Et c'est la scène qui ouvre. Et donc on se dit « bon, ben, en 2022, ça se passe encore comme ça ». Je pense être bien placée pour dire que pas vraiment quand même, qu'il y a eu beaucoup de progrès et qu'il faut le dire aussi. Après, on n'est pas au pays de oui-oui pour dire que tout a progressé. Il y a un manque de moyens terrible, il y a un manque de volonté politique évident. Donc il manque des policiers pour bien traiter aussi les gens. Je veux dire, c'est facile d'aller, moi très facilement, j'ai le verbe fort contre les policiers, contre les magistrats. Maintenant, je sais bien aussi que quand on est juge d'instruction et qu'on a 350 dossiers à traiter, ben, on ne peut pas bien faire. Et quand on est policier et qu'on travaille dans des conditions insalubres, parce que c'est quand même à ça que ça ressemble, un commissariat de police, c'est aussi difficile de bien recevoir les gens, de les recevoir juste un tout petit peu dignement. Ça n'excuse évidemment pas tous les comportements et on est là pour lutter contre.
Merci beaucoup, Laure. On reviendra après sur la question de l'action de la justice, justement. Carolina, la question du récit, elle est centrale aussi, notamment dans le spectacle que vous présentez actuellement, puisqu'il s'inspire, je citais tout à l'heure, de l'histoire de Pipa Baka. Et puis, il parle aussi d'autres femmes qui ont été victimes de féminicides. Donc, Pipa Baka, juste pour resituer, c'est une artiste italienne qui s'était lancée en 2008 dans une performance artistique très forte, puisqu'elle cherchait elle est partie en autostop à travers l'Europe, habillée en robe de mariée, et elle cherchait à montrer l'importance de la confiance dans l'autre, et en faisant de l'autostop jusqu'à Jérusalem. Et en décidant qu'elle allait monter dans chaque voiture qui s'arrêterait sans juger les personnes en question. Et puis et un voyage qui malheureusement s'est achevé de manière tragique puisqu'elle a été violée et assassinée et son corps a été retrouvé à côté d'Istanbul. C'est cette histoire qui est un peu à l'origine de ce spectacle que vous présentez. Et pourquoi cette histoire-là et celle des autres femmes que vous abordez? Pourquoi est-ce qu'elle devait être racontée, justement? Et quelle est la place de la voix de Pipa, de son récit, dans votre art, dans votre création?
Eu sinto que a história da Pipa Baka é uma história que, claro, ela abre o espetáculo e ela é o começo de uma jornada, de uma rota, né, na direção de muitas histórias, porque eu acho que o espetáculo é justamente essa grande tapeçaria de histórias que vão se conectando.
Donc l'histoire de Pipa ouvre le spectacle. Donc parce qu'elle est représentative de toutes ces femmes dont on présente la vie au fil du spectacle. Donc, elle ouvre le voyage parce que c'est donc une traversée le long de plusieurs générations de l'histoire de ces femmes-là. Et c'est aussi un peu comme une tapisserie où tous les fils s'entremêlent.
Porque uma das perguntas iniciais desse trabalho era: é possível que o teatro possa ser um espaço que sustente essas narrativas e como elas aparecem nesse espaço do teatro?
Parce que une des premières questions du spectacle, c'est est-ce que le théâtre peut soutenir ces narrations et comment faire donc pour les présenter?
Porque ainda sinto que escutando vocês, o que me ressoa aqui também no processo desse trabalho é como dar conta de todas essas histórias, né? Dessas histórias que estão sendo narradas no trabalho e que também são as nossas histórias. E então pensar o teatro como esse espaço imediato de coletivização dessas narrativas, desse problema.
En vous écoutant, j'ai pensé aussi que le théâtre, c'était comment présenter ces histoires, comment les amener les unes après les autres, et puis de quelle façon le théâtre est un espace de collectivisation où on peut justement présenter ce type de situation.
Como o teatro consegue trazer essas histórias que justamente devem ser esquecidas, né, que não devem ser narradas, ou que supostamente devem ser narradas num campo íntimo, particular, e como elas aparecem nesse espaço onde essa coletivização é o princípio, né, desse encontro do teatro.
E como, então, o teatro narra essas histórias que deveriam ser tues, ou alors qu'on ne se raconte que dans l'intimité. Et donc, comment est-ce que le théâtre peut donc servir à les mettre en évidence, et notamment par c'est donc un des premiers espaces donc de collectivisation qui permet d'en rendre compte.
Porque acredito que falando sobre Pipa Baca e sobre outras mulheres que aparecem no texto desse espetáculo, também estamos falando de todas nós. Todas nós conhecemos ou sofremos violência sexual, conhecemos alguém que sofreu violência sexual. Isso não é um assunto que está distante, isso é obscenamente próximo.
Parce que je crois qu'en parlant de Pipa et de toutes ces femmes, on parle aussi de nous toutes, parce que nous toutes sommes confrontées à des violences, à toutes sortes d'agressions obscènes. Et donc c'est l'occasion justement de les mettre en évidence.
Dessa proximidade, né? Tudo é tão próximo. Então, eu sinto que o que acontece no espetáculo, para mim, era importante que ele não ficasse apenas na camada do discurso, mas que fosse constante essa pergunta, esse movimento, essa investigação sobre como criar uma linguagem para se falar sobre isso no teatro.
Então, o que era importante para mim é que isso não reste ao nível do discurso. O que eu queria era trouver des moyens pour trouver un autre langage pour exprimer donc ces situations, voilà, trouver comment rendre visible et audible tout ce qui en fait est si proche de nous.
Et digo criar linguagem porque é uma tentativa, é muito complicado falar sobre isso. Eu já me sinto desconfortável em dizer a peça é sobre violência sexual, porque eu acho que isso nem cabe. Acho que a tentativa mesmo é entender essa confusão que existe quando a gente tenta trazer esse tipo de história, esse tipo de assunto para um espaço da arte, para o espaço do teatro. Acho que nunca é simples.
J'essaie de trouver un langage pour exprimer tout ça. Bien que ce soit très difficile, et moi-même j'ai un peu de mal lorsque je dois résumer la pièce en disant que c'est sur les violences sexuelles, parce que c'est assez difficile d'aborder la question.
Portanto, a peça, eu sinto que ela é realmente muito mais a dramaturgia desse trabalho. Ela acaba sendo um grande enigma, uma grande pergunta, uma grande questão. Ela é labiríntica, ela se perde nela mesma, porque não há resposta, né? À medida que fazíamos o trabalho, eram mais perguntas e perguntas que iam aparecendo sobre isso, e como a gente lida com o conflito dessas perguntas, dessas informações.
La dramaturgie de cette pièce, en fait, elle repose sur une grande question. Elle a un aspect labyrinthique et plus on creuse, plus on se pose davantage de questions. Donc, ce spectacle, c'est donc plusieurs questions, avec un langage de l'art, le langage du théâtre.
Merci beaucoup, Carolina. C'est vrai que pour avoir vu cette pièce hier, c'est aussi une pièce qui est complexe, qui est
choc, qui est aussi assez forte, et qu'on voit aussi la volonté de parler de beaucoup de femmes différentes aussi, non seulement de Pippa, mais aussi d'autres femmes, et de leur donner aussi une certaine voix, de leur permettre d'être là sur scène aussi, peut-être.
Para mim, uma coisa muito importante é entender também essa dramaturgia como... Eu não sinto que eu estou dando voz a essas mulheres. Essas mulheres sempre tiveram a sua voz. Mas eu sinto que é entender como essas narrativas aparecem ali. Porque, para mim, dar a voz significa como se eu estivesse fazendo um gesto quase heróico na direção disso. E eu acho que é justamente o contrário. Acho que reunir essas histórias, reunir essas vidas, porque acho que não é só sobre reunir as mortes, mas também é olhar quem foram essas mulheres, o que aconteceu, né? Tanto que essa pergunta está no espetáculo muitas vezes, o que aconteceu.
Donc, pour moi, cette dramaturgie, c'est pas juste porter leur voix, parce que ces femmes-là, elles avaient leur propre voix, donc ça serait trop héroïque de ma part, mais en revanche, ce que j'ai voulu faire, c'est réunir toutes ces histoires, les présenter ensemble, non seulement parler de leur mort, mais surtout parler de leur vie, donc leur présenter leur existence.
Então eu sinto que a escolha dessas mulheres se dá também como essa minha investigação sobre a própria Pippa Baca, por exemplo, falando de Pippa Baca, então a gente começa a falar sobre performance art. Ela era uma artista que estava fazendo uma performance. Falar de Pippa Baca e performance art, nós chegamos na Ana Mendieta, que foi uma artista cubana que também foi assassinada. Nós vamos falar, então, sobre, lendo 2666 do Roberto Bolaño, nós vamos falar sobre os casos de milhares de feminicídios de Cidade Juárez no México, nós vamos falar sobre os milhares de casos de feminicídio no Brasil.
Donc, parce que en parlant de Pippa Baca, c'est aussi parler de cette artiste italienne performeuse. En parlant des autres femmes, il y a notamment une artiste cubaine qui a été tuée, mais Donna Mendieta.
Ana Mendieta.
Ana Mendieta, pardon, je ne la connaissais pas. C'est parler de toutes les autres femmes qui ont vécu, qui ont voilà. Qui avaient une existence, qui avaient un rôle très, très important pour leur entourage. C'est parler de toutes ces femmes. En fait, c'est, pour moi, c'est leur vie que je considère la plus importante. Et donc l'art, ça permet aussi de les mettre en valeur.
E porque sinto que quando vamos começando a falar sobre todas essas mulheres, também a gente passa por aqui. Passa pelas minhas histórias, passa pelas histórias das minhas amigas. Então você começa a ver que está tudo realmente conectado por um grande fio, né? É um fio da violência que, de alguma maneira, conecta a todas. E ele é terrível, mas eu sinto que investigá-lo também há aí uma possibilidade de um movimento.
Falando de ces femmes, en fait, on parle aussi de nous, on parle de moi et de mes amis, puisque entre nous toutes, on sent qu'il y a un fil donc qui nous relie, et ça concerne des milliers donc de femmes depuis très très longtemps, et parce que donc c'est une façon de parler de cette violence qui est toujours là.
Et peut-être alors cette s'adresse peut-être aussi un peu à toutes, mais le fait de ne pas seulement parler de leur mort, mais aussi de parler de leur vie avant, ça veut dire aussi ne pas d'une certaine manière les réduire à ce statut de victime, c'est-à-dire qu'elles ont été victimes de violences, elles ont parfois été victimes de féminicides ou de viols, mais elles ont aussi une autre existence et elles ne sont pas que des personnes victimes. C'est d'ailleurs pour ça que souvent on entend le terme de survivante aussi, qui est un terme utilisé pour des femmes qui ont été victimes de viol et qui ne sont pas que des personnes victimes de viol. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est important, notamment dans le fait de rendre public les histoires des femmes victimes de féminicide, ou en tout cas le rôle, les médias souvent peuvent avoir ce rôle-là de mettre en lumière aussi l'histoire de femmes victimes. en parlant d'elles aussi d'une manière, en ne les réduisant pas à ça. C'est important le rôle des médias dans ce domaine-là, je pense.
Oui, bien sûr, et je rejoins Carolina parce que nous, on a essayé aussi de trouver un maximum d'informations sur leur vie, pour les raconter, elles, en tant que personnes, raconter leur combat, rappeler l'importance de leur existence pour la défense des droits humains, des droits des femmes et tout ce que j'ai cité tout à l'heure. Et en fait, on a travaillé un petit peu aussi en deux équipes, notamment une équipe qui essayait de faire du chiffre, malheureusement, de trouver un maximum d'histoires pour sortir des horribles statistiques, pour avoir vraiment des choses à montrer et démontrer ce continuum à travers la somme. Mais aussi une autre partie de l'équipe, parce qu'on était une dizaine de journalistes à travailler sur le projet, une autre partie de l'équipe qui est partie sur le terrain pour rencontrer les survivantes en Colombie. En Colombie, c'est des femmes militantes qui, en face d'elles, ont les cartels de drogue et aussi les géants des multinationales qui veulent récupérer leurs terres. Il y a Delphine qui a été en Turquie pour rencontrer une survivante d'une tentative du coup de féminicide politique en Afghanistan, une jeune fille de 17 ans qui se battait pour pouvoir aller à l'école. Et on a été aussi dans des endroits pour aller rencontrer les personnes qui ont repris le flambeau, donc pour continuer à visibiliser leur combat, même si... Elles ont disparu, et donc c'est aussi une forme de mécanisme de protection qu'on essaye d'installer pour les militantes, c'est-à-dire que ils ont voulu les faire taire, mais même celles qui sont mortes elles ont encore la parole à travers notre travail aussi.
Et je fais juste une petite incise sur le roman que tu as écrit, Laure, Corps défendu, où tu parles de cette femme qui est tuée et qui est violée et tuée, mais tu parles aussi de celle qu'elle était avant, de son histoire et de sa vie sentimentale, etc. Et est-ce que c'était aussi une manière de parler d'une personne dans un dossier judiciaire, en disant c'est dans un dossier judiciaire, elle n'est pas que la scène de crime, elle est aussi ce qu'elle était avant, et c'est ça aussi qui est important dans la visibilité qu'on donne à ces femmes après leur mort?
Mais en fait, c'est le rôle de l'avocat. C'est le rôle de l'avocat qui est, quand on est partie civile, donc quand on défend, et encore plus quelqu'un qui est mort et qui n'est plus là, quoi, quand on le représente, quand on assiste sa famille, c'est de, pour le coup, lui donner plus qu'une voix, oui, une visibilité, la faire un peu... Alors bien sûr, c'est difficile de dire revivre le temps d'une audience, mais lui donner de la chair, si, c'est quand même un peu ça. Bien sûr, nous, les avocats, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est là aussi pour la preuve. Donc la justice, elle fonctionne pour condamner quelqu'un ou pas. Donc c'est caractériser une infraction ou pas. Mais il arrive très fréquemment qu'en fait, ça se soit déjà plié d'avance. Je veux dire, la plupart des procès, les gens ont reconnu l'infraction. S'ils ne l'ont pas reconnu, il y a tous les éléments maintenant de preuve qu'on peut avoir. Alors évidemment, ça pose un problème dans les violences sexuelles, mais moins dans les féminicides, bien sûr. Et donc, c'est ce qui est souvent, je pense, d'ailleurs, un crime qui est complètement reconnu. Et donc là, la question de la preuve ne se pose pas. Et comme pour la partie civile en droit français, la question de la peine ne se pose pas. Ça, c'est quelque chose qu'on ignore assez souvent, mais... L'avocat n'a pas l'avocat d'une plaignante, d'une victime, n'a pas le droit de demander une peine. C'est l'avocat général ou le procureur, selon les juridictions, qui lui demande une peine de 5 ans, de 10 ans, de 18 ans. La victime elle-même, une victime de viol, peut venir dire « mais moi, je veux qu'il crève, moi, je veux qu'il prenne 20 ans ». Bien sûr, on a tous les droits de s'exprimer devant une juridiction et de s'exprimer d'ailleurs globalement dans la vie et même devant les médias. Mais nous, les avocats, on ne peut pas. Il y a une déontologie parce que chacun est à sa place et c'est ça qui fait que, d'après moi, ça fonctionne le mieux possible. Enfin, on a quand même le système le moins pire avec un avocat de partie civile qui parle de la plaignante un procureur de la République qui, lui, demande une peine, cherche à caractériser une infraction, un avocat de la défense qui défend, et des magistrats ou des jurés qui jugent et qui donnent et qui statuent et sur la responsabilité et sur la culpabilité et sur la peine. Mais donc très souvent, effectivement, le rôle de l'avocat est assez ingrat en réalité. Hein, c'est celui de parler de quelqu'un. Alors c'est presque pas très juridique, et c'est vrai que l'avocate dans mon roman, elle a un peu un problème de conscience, parce qu'elle peut pas aller demander une peine. Elle entend bien que possiblement la famille de celle qui est morte, elle aimerait bien qu'on aille demander perpétuité et puis qu'elle soit, que derrière il y ait une avocate qui puisse avancer comme ça. Ce qu'on voit aussi et ce qu'on sait et ce que moi j'explique à celle que je défends, c'est qu'en réalité, quand on parle très bien d'elle, eh ben, ça donne vraiment envie aux magistrats de frapper très fort dans la peine, beaucoup plus que si on passe notre temps à cogner l'autre. Et en même temps, moi, j'ai pas prêté serment non plus pour que les magistrats donnent des peines qui pourraient nous sembler démesurées aussi. Donc il y a un cas de conscience comme ça qui n'est pas, à mon sens, inintéressant, parce qu'il dépasse bien sûr la seule question de cette jeune femme dans le livre et de cas particuliers de la justice.
Jeune femme, l'histoire du livre, on sent bien quand même qu'il y a beaucoup de réel dans ce récit-là. Hein. J'imagine en tout cas que c'est basé sur beaucoup d'expériences directes que tu as connues. Ouais.
Oui, ça a été un mélange. Alors, c'est pas une affaire, c'est plusieurs affaires qui ont été mises en roman. Donc, tout est vrai, mais rien n'est réel. Quoi. Enfin, c'est peut-être qu'on peut le dire dans l'inverse aussi. Et moi, ça m'intéressait de le faire. J'aurais pu le faire sur un récit, hein, prendre une seule affaire et puis dire que la réalité. Mais ce que je trouvais plus fort, c'était de pouvoir parler des deux côtés et de se mettre dans la tête de chacun des protagonistes. Parce que c'est un peu facile aussi de prendre la lumière que d'un côté, d'être l'avocate que d'un côté et de se contenter que d'un récit. Sauf que, bien sûr, quand on se dit ben, un homme qui a violé, moi je défends la femme, il a violé, il a tué, il doit prendre perpète, on peut s'arrêter là aussi dans le débat, je veux dire, ça pose pas vraiment de questions. Et puis en réalité, quand on regarde son récit à lui, la lumière qui est posée de son côté à lui, quand on voit qu'en fait, c'est aussi juste un pauvre type, quoi, qu'aurait pu complètement tourner autrement si des mains avaient été tendues. C'est pas toujours aussi des questions que les gens savent pas saisir les mains qui leur sont tendues, c'est que parfois juste elles sont même pas tendues, et puis qu'on se dit en fait on aurait pu être à la place de ce gars-là et on sait pas comment ça aurait tourné, et qu'en fait c'est aussi quelques instants dans sa vie, quoi, et c'est pas pour ça qu'il doit pas prendre une peine qui est extrêmement lourde, mais en tout cas c'est pour ça que c'est pas si simple que ça. Et alors moi, s'il y a un avocat que je peux plus supporter comme tous les avocats, c'est Éric Dupond-Moretti. D'ailleurs il est plus avocat, ça tombe bien. Mais quand il était avocat, il avait une définition de l'avocat qui était géniale. Et il disait, l'avocat, c'est celui qui dit, attendez une minute. Je veux dire, notre rôle, c'est pas plus que ça. De dire, attendez, en fait, c'est pas si simple que ça. Et c'est pour ça aussi que c'est chacun à sa place. C'est-à-dire que là, l'avocat de la défense va dire, attendez une minute. Mais l'avocat de la partie civile, lui, va dire, en fait, la vie qui a été supprimée, c'était tout ça aussi.
Merci beaucoup. Je vais faire une transition habile du roman vers le théâtre. Et puisqu'en plus, Carolina doit malheureusement nous quitter à 18h, je vais revenir vers elle. Justement, pour savoir, au-delà du roman, justement, qu'est-ce que l'art, la création, le théâtre, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Qu'est-ce que peut faire l'art pour quel rôle il peut jouer pour essayer de changer des choses, pour changer le monde peut-être, en tout cas, doucement. Hein. Ok, alors, en tout cas, il a certainement un rôle, puisque vous êtes saisi de cette manière-là, de cette modalité, en tout cas, pour parler des violences sexuelles. Quel rôle il peut avoir, et vous le poussez très loin, l'art aussi, dans la performance. Qu'est-ce que vous attendez de l'art pour pouvoir peut-être... soit faciliter la justice, soit faciliter la parole, en tout cas, quel est le rôle que vous lui donnez ?
Je sens que... talvez porque eu seja um pouco pessimista, eu não consigo ainda pensar, para mim parece um outro passo pensar sobre mudar o mundo, e também porque me coloca numa responsabilidade que eu não sinto que sou capaz de compreender mesmo essa dinâmica.
Alors, ce que je ressens, peut-être parce que je suis pessimiste, mais je ne me vois pas donc, faire d'autres pas, et je ne me sens pas donc, la capacité de changer le monde. Ça serait,
Mas, contudo, no entanto, eu sinto que há algo no teatro, na arte, que provoca movimento. Né? Eu sinto que falar, trazer, na verdade, mais do que falar, trazer essas histórias para o espaço da arte, para o espaço do teatro, vou falar do teatro que é a arte com que trabalho, mas trazer essas histórias para esse espaço, nesse processo de coletivização, né? Trabalhar como nós ouvimos isso, como a gente se depara com essa... com a maneira como nós vemos, por exemplo, nosso espetáculo, como a gente organiza isso. Acho que isso, para mim, se isso provoca algum distúrbio, alguma desorientação, isso já é um movimento em alguma outra direção.
Néanmoins, je trouve que l'art, que ce soit du théâtre ou pas, il provoque un mouvement. Et donc, et notamment au théâtre, donc de la façon, l'art que moi j'utilise, même si derrière, à partir du moment où il provoque, à partir du moment où ça dérange, où ça bouleverse, déjà là, il a une utilité. Et donc, c'est donc le fait déjà de provoquer ce changement, la façon dont, d'amener ces histoires, la façon de les mettre en scène, ça déjà, c'est positif, ça a un effet.
Acho que essa desorientação, esse incômodo, esse conflito constante ao redor dessas histórias, isso para mim, eu acredito que isso já é um movimento que faz com que as coisas se estendam para fora do teatro. Né? Quais são as práticas que nós precisamos desenvolver nesse espaço? Qual é o trabalho que precisa ser feito entre artistas e público para que a gente possa... para que essas histórias, talvez, um dia não precisem mais serem contadas?
Lá, déjà... quand il y a bouleversement, réaction, choc, etc. Donc déjà, là, ça provoque un mouvement, une réaction. Et donc, nous, à notre niveau, c'est, donc, on doit réfléchir sur nos pratiques théâtrales donc, pour amener ces histoires, faire réagir et les faire sortir du théâtre, les amener donc dans la cité, et de telle sorte que à force d'en parler, un jour, on n'ait plus besoin de faire des spectacles sur ce sujet-là.
Merci. Donc merci. Vous n'êtes pas si pessimiste puisque vous pensez que ça peut avoir un effet quand même.
C'est vrai.
Alors, comme Carolina doit partir à 18h, peut-être voir s'il y a des questions dans le public, particulièrement pour Carolina, avant qu'elle s'en aille. Il y a une dame là-bas, alors je ne sais pas qui s'occupe de... Voilà. Et on aura du temps de questions et on continuera le dialogue avec Laure et Rugiata ensuite.
Merci. Bonjour, je suis enseignante et je suis avec mon groupe qui est devant moi, là, une quinzaine d'élèves, des lycéens, et on a travaillé sur un texte qui traite de la justice cette année, entre autres par rapport aux violences faites aux femmes. Ça s'appelle « Au loin les oiseaux » et ça parlait de l'affaire Jacqueline Sauvage. Donc les élèves, ils sont assez branchés sur la question de la justice, mais on nous avait proposé d'assister aux répétitions du spectacle de Carolina. Et ça a vraiment posé débat. Et je voulais savoir pourquoi ça avait été interdit, enfin, déconseillé au moins de 18 ans. Et donc la question de la réception du réveil de traumatisme chez certaines femmes face à ce spectacle. Enfin, moi, ça m'a posé un vrai problème déontologique en tant qu'enseignante.
Ça vous a posé un vrai problème déontologique
d'emmener des élèves,
d'emmener des élèves. Mm-hmm. Je vais laisser Carolina répondre à cette question. Et finalement, ils y sont allés ou ils sont
non,
pas allés?
Non, puisque ensuite, sur la base de l'année discussion, ça a été déconseillé au moins de 18 ans. Parce que nous, la question du trauma et des violences sexuelles, les élèves s'en emparent, ils en parlent beaucoup, ils sont très intéressés. Mais nous, on est face à qu'est-ce que ça réveille ensuite, en quoi on vient toucher leur propre expérience. Et on a vraiment un problème avec comment dire, comment porter cette parole des violences faites aux femmes. À la fois, on fait de l'information, mais des fois, ça fait des dégâts derrière. Donc, comment on fait, quoi? On est un peu dans cet apprentissage-là, de comment on en parle.
Je pense que c'est une question qu'on se pose beaucoup sur la question même de la sensibilisation sur ces questions. Mais je vais laisser Carolina répondre.
Eu não sei se eu sei responder essa pergunta, porque normalmente a classificação etária dos espetáculos, ela também parte de um acordo também institucional do que é considerado possível, né? Talvez o espetáculo contenha cenas que abaixo de uma certa idade seja, não sei, talvez seja uma discussão que precise de algum tipo de acompanhamento. Eu pessoalmente não sei se eu conseguiria responder o porquê. Essa é a idade do trabalho. Eu acho que é um espetáculo que tem cenas que avaliadas pela equipe do festival, esse trabalho precisaria ter essa faixa etária.
Je ne saurais pas répondre exactement pourquoi est-ce que les répétitions ont été interdites, enfin le fait d'assister aux répétitions a été interdite à vos élèves.
Non, elles n'ont pas été interdites.
C'est le spectacle qui a été interdit.
Ni interdit, déconseillé au moins 18 ans.
Et donc, elle a choisi de ne pas emmener les élèves parce que c'était déconseillé aux moins de 18 ans. Et donc, la question, c'est aussi, si j'ai bien compris, que comment est-ce qu'on fait pour à la fois aborder le sujet et aller voir des spectacles qui parlent de ça, mais aussi, d'une certaine manière, protéger aussi des élèves qui s'emparent aussi de la question du trauma et qui peuvent aussi avoir leur... Ça peut aussi provoquer... une réminiscence de leur propre trauma. Et là, c'est vrai que le spectacle, il peut être très perturbant pour des personnes qui ont vécu des violences sexuelles. Comment est-ce qu'on fait, voilà.
Pour traduire la fin de sa réponse, c'est qu'elle ne sait pas exactement pourquoi est-ce que la limite d'âge a été de 18 ans ou pas. C'est pas elle qui l'a décidé. Le spectacle a été approuvé par l'équipe du festival, mais c'est vrai qu'il y a des scènes violentes qui pourraient être trop traumatisantes.
Eu acho que o espaço do teatro é um espaço que ele não é seguro. Essa discussão sobre a violência sexual, ela não é segura. Ela é uma discussão complexa. Ela é uma discussão, afinal, sobre a violência. E eu acredito que, para se tocar nesse tipo de tema num espetáculo, ele vai abrir algumas portas que são difíceis, que são desconfortáveis. E acho que é uma negociação mesmo, como a gente lida com isso. Nós, da equipe artística, o público. Acho que o espetáculo também é essa pergunta sobre quais são os limites dessa negociação.
Donc, l'espace théâtral n'est pas un endroit sûr. Et le thème des violences sexuelles non plus, c'est pas sûr du tout. Et c'est vrai que ce spectacle-là, donc ça peut ouvrir des portes vers des sensations qui sont inconfortables, notamment pour ceux qui ont déjà vécu ce genre de traumatisme. Mais l'art, et notamment le théâtre, ça sert aussi à ça. Mais après, c'est chacun en fonction de sa façon de réagir, de sa sensibilité.
E acho só mais uma coisa, que nesse sentido, o papel também nosso, da nossa equipe e do festival, é avisar o público de que essas cenas que são, podem ser, porque talvez nem sejam, mas podem ser perturbadoras, esse aviso está lá. Então, também vem de uma escolha do quanto você quer se deparar com isso.
Mas notre rôle, à nous, donc les artistes et l'équipe du festival aussi, c'est d'avertir que certaines scènes peuvent, mais je dis bien peuvent, être donc perturbantes, pas nécessairement, mais donc c'est aussi notre rôle pour laisser le choix à ceux qui veulent y aller ou pas, tout en étant avertis.
Merci beaucoup, Carolina. Merci. Je sais que vous
merci
devez partir.
À tout. Merci beaucoup. It was a pleasure to be here.
Obrigada.
Obrigada.
Merci et bon spectacle ce soir.
Merci.
On va poursuivre la discussion. Je vais me tourner vers Rogiata puisque cette question-là, elle fait écho aussi au travail que tu effectues dans les ateliers d'éducation aux médias.
Oui, tout à fait pour Madame.
Pour Madame, c'est à la suite de votre question, Madame, vous voulez continuer sur ce sujet.
Oui, je disais, pour rebondir sur ce que disait Carolina, c'est vrai que c'est souvent compliqué quand on intervient, nous, en tant que journalistes dans les établissements scolaires, en collège et en lycée, parce que parfois on nous demande d'aborder ces questions-là et ça vient de la part du corps enseignant et ça peut être parfois maladroit et les élèves n'en ont pas forcément envie. Mais par contre, ce qu'on a remarqué, c'est que quand on fait des conférences de rédaction avec les groupes et qu'on leur demande de réfléchir à quelle thématique, sur quelle thématique ils veulent travailler, bah, c'est quelque chose qui revient, le droit des femmes, les agressions, etc. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est créer des espaces pour qu'ils puissent s'exprimer, échanger. Parfois, ça va être l'anonymat qui va le permettre. Parfois, ça va être la non-mixité aussi. On va avoir un groupe de jeunes filles qui va nous demander de travailler sur cette question entre elles. Ou, souvent on utilise des espèces de boîtes où on peut déposer des récits anonymement. Et vraiment, on est dans l'accompagnement à l'écriture pour pouvoir, libérer si on a besoin. Et après, c'est sûr que quand on perçoit qu'il y a des choses qui sont un peu, enfin, qui nous dépassent finalement, parce que c'est pas notre rôle. Ça va être le corps enseignant ou l'infirmière scolaire qui va prendre le relais, enfin l'équipe pédagogique qui va prendre le relais et pas forcément nous dans les ateliers, mais en tout cas créer un espace où la discussion est possible ou au moins le fait de pouvoir coucher sur le papier ou ce qui peut être traumatique quoi, sans réveiller les traumas quand on n'a pas envie de les entendre en fait, tout simplement.
Merci beaucoup Rugiata. Peut-être voir s'il y a d'autres questions dans le public. Alors, s'il n'y en a pas.
S'il n'y en a pas, moi je veux bien rebondir sur ce qui vient d'être dit finalement. Vous voyez, on en parle beaucoup. Parce qu'en fait, en entendant l'artiste dire, j'ai noté sa phrase parce qu'elle dit. Parce qu'en fait, à votre question, je crois qu'ici on avait quand même envie de répondre. Ça valait quand même l'interdiction, l'avertissement de moins de 18 ans, ça valait. Moi, si j'ai choisi d'être avocat, c'est parce que je pense que les interdictions, ça vaut rarement. Hein. Je comprends quand je l'entends, parce que là, elle a dit, j'ai une mémoire de poisson rouge, mais elle dit, l'espace théâtral n'est pas un endroit sûr. Ce qui est un peu... forcément, ça marque quoi, quand on entend quelque chose comme ça. Mais pourquoi pas ? Moi, j'ai aucune idée. Je fais pas de théâtre. J'adore aller au théâtre. En général, je me sens dans un endroit sûr. Hier, je me suis pas du tout sentie dans un endroit sûr. Et pourquoi pas ? Je veux dire, pourquoi pas ? C'est effectivement une performance, une expérimentation. Mais alors, ça fait doublon avec la violence sexuelle. C'est-à-dire que je pense que si les violences sexuelles, il faut en parler dès le lycée et peut-être même avant le lycée, en réalité, que quand on sait statistiquement que dans une classe, il y a au moins 5, il n'y en a pas au moins, mais il y a 5 enfants statistiquement qui sont victimes de violences sexuelles et que en fait, les profs n'en connaissent pas un seul, c'est qu'il y a bien un problème de ce qui n'est pas verbalisé. Mais bien sûr, ça doit être dit dans un cadre sûr. Et quand on rentre dans un cabinet d'avocat, on sait que rien ne sort. C'est la première chose que moi je vais pouvoir dire. Même tes parents ne sauront jamais ce que tu es en train de me dire. Le juge ne saura jamais, sauf si tu es d'accord pour qu'on répète et qu'on aille dire au juge ensemble. Il y a quelque chose de l'ordre de la certitude et du confort que peut-être vous pouvez réussir à avoir dans une classe. J'en ai aucune idée, qu'on peut avoir avec des intervenants comme ça. Nous, les avocats, on intervient aussi dans les classes, mais pour que la parole se libère et puisse être dite, il faut évidemment qu'il y ait un espace comme ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les policiers, quand ils interrogent, quand ils le font bien, parfois, nous, les avocats, on se demande un peu ce qu'ils font, parce qu'on met 2 heures à y arriver aux questions. Mais c'est justement pour aussi qu'il y ait un lien qui se crée un peu et que la personne puisse se sentir en confiance. Or, dans le spectacle qui est proposé, et c'est aussi le biais qu'elle a choisi et qui est intéressant, il y a un inconfort du lieu dans lequel vous êtes. Et déjà là, c'est très violent, quoi. Et ensuite, donc, ce qui est dit est perçu à l'aune de cette violence-là. Et donc, je pense que pour un début de débat dans une vie assez jeune, c'est effectivement pas le spectacle qui crée ce dialogue possible.
Merci Laure. Alors, peut-être pour rester sur la question de l'action, de ce qu'on peut faire, on a parlé de l'accueil en commissariat, du rôle de la police, mais la justice, maintenant, une fois que la plainte est déposée, la justice, on le disait tout à l'heure, elle est souvent critiquée pour son inefficacité. On parlait de ce chiffre un peu raccourci des 1%. Mais souvent, cette inefficacité, elle amène certaines, en tout cas, à ne pas lui faire confiance, à ne pas souhaiter même porter plainte. C'est un phénomène qu'on entend souvent. Ça ne sert à rien d'aller porter plainte, je ne vais pas le faire, etc. Et puis, parfois, on critique certaines limites, comme la question de la prescription, ou quelle question, on dit que la définition du viol ne serait pas satisfaisante dans le droit français. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Qu'est-ce qu'il faudrait faire changer, justement? C'est une vaste question, je sais.
Pas du tout une vaste question, parce que alors, pour moi, celle-là, elle se règle très rapidement. Ma réponse, elle est hyper simple, c'est rien. En fait, si on a besoin de quelque chose en ce moment, justement, c'est de stabilité sur le plan juridique. C'est-à-dire, les lois n'arrêtent pas de changer. À chaque fait divers, on a une nouvelle loi qui ne sert à rien. On a une définition du viol qui est très clair en réalité, qui fonctionne très bien si on l'applique. Toutes les lois qu'on a sont largement suffisantes. Parfois, ils sont en train de revoter des lois qu'on a déjà, mais ils ne savent même pas qu'on les a déjà, tellement ils ne savent plus où ils en sont. Et ils font voter des lois parce qu'on dit « Ah ben oui, mais maintenant, quand on s'attaque à un policier, il faut que ce soit puni sans remise de peine, etc. » Enfin, des trucs qui sont complètement absurdes et qui existent d'ailleurs déjà. Bon, le viol, c'est une pénétration sexuelle avec menace, violence, contrainte ou surprise. C'est quand même... Ça a cette vertu, parce que le débat qu'il y a en ce moment, c'est est-ce qu'il faut, on parle tous de consentement à droite, à gauche, est-ce qu'elle était consentante, est-ce qu'on fait rentrer cette notion de consentement dans la loi? Ce qui est, à mon sens, j'ai le mot stupidité qui me vient là, mais c'est pas ça, c'est très grave en réalité de vouloir faire rentrer la notion de consentement dans la loi, parce que ça fait peser sur la victime le fait d'avoir elle-même dû agir en disant non, et la charge de la preuve sera sur elle, comment est-ce qu'elle a pu donner une absence de consentement, ou un consentement ou une absence de consentement. Alors qu'en réalité, là, la loi dit qu'il faut une preuve de violence, de menace, de contrainte ou de surprise. La victime, elle a rien là-dedans. Elle n'est pas agissante sur est-ce que j'ai donné mon consentement ou comment est-ce que j'ai pas donné mon consentement. Donc en fait, la loi suffit. Maintenant, ce qui nous manque, nous, en matière de justice, et je le disais tout à l'heure, mais ce sont juste, entre guillemets, des êtres humains, donc des moyens et une volonté politique. Il suffit, c'est super de travailler sur les violences sexuelles, mais ce qui est encore mieux, en fait, c'est d'aller dans les tribunaux. Et d'aller dans les tribunaux, on peut y aller quand on a moins de 18 ans, on accompagne les gens, vous allez en comparution immédiate, et vous allez voir que quand vous volez un pull dans un magasin, en réalité, c'est pas, le juge, il vous dit pas que c'est pas bien. Hein. Le juge, il vous fait passer en comparution immédiate, il choisit ça comme mode d'action, et puis vous allez 3 mois en taule. C'est ça la réalité de la justice française, en fait. Elle est hyper répressive. Alors, dans les dîners en ville, on entend toujours les rageux qui vous disent « Ah, ben alors, on retrouve toujours les trafiquants de stupéfiants dehors ». Mais en réalité, on a une justice qui est extrêmement répressive. Alors, bien sûr, elle est bien plus répressive contre les gens qui sont pauvres, contre les gens qui sont de couleur, contre les gens qui sont désinsérés. C'est sûr que quand on est un homme blanc ou riche, on risque un peu moins. Néanmoins, il commence à être rattrapé aussi sur la question de la prescription, parce que je m'emballe un peu vite sur ces sujets, pardon, mais j'y reviens. Sur la question de la prescription, là, c'est pareil. On en est à, quand on a été violé dans sa minorité, la loi prend tellement en compte la mémoire traumatique dont on parle et dont il est intéressant d'aller parler avec une classe, qu'on peut déposer une plainte jusqu'à l'âge de 48 ans. C'est-à-dire que si vous avez été violé à l'âge de 10 ans, vous pouvez déposer plainte jusqu'à 48 ans. Il est question maintenant, il est demandé par certains groupes, que ce soit un crime qui soit imprescriptible. Mais quelle va être la réponse, en fait ? Vous allez déposer plainte quand vous aurez 55 ans pour un crime qui aura été commis sur vous 40 ans avant. C'est-à-dire que, alors là, on parlait des preuves, mais là, c'est sûr qu'il y a une disparition des preuves qui est évidente, mais en plus, une disparition même des témoins, puisque les gens seront morts. Ça n'aura plus aucun sens du point de vue de la justice, enfin, la réponse pénale. Est-ce que vous allez mettre quelqu'un en prison 40 ans après, qui s'est réinséré, qui a fait... L'idée de la prescription, c'est la paix sociale aussi. C'est qu'à un moment donné, les gens changent. Alors, tu demandais tout à l'heure si elle espérait pouvoir changer le monde. Ben, je ne sais pas, mais en tout cas, la vision du monde qu'on peut avoir et la vision des hommes, c'est que les hommes changent et que les gens progressent. Et c'est ça l'idée de la prescription. C'est qu'on peut avoir commis des horreurs, mais que 30 ans ou 40 ans après les faits, on peut aussi être un homme ou une femme totalement différente. Donc c'est complètement faire un mensonge aux femmes que de venir leur dire ben, « oui, on va lutter, on va changer la loi pour que ce crime devienne imprescriptible, ça fera encore plus de dégâts, et puis c'est à mon sens totalement, non seulement contre-productif, mais en plus totalement antidémocratique. » Donc je crois que la loi, surtout, elle doit pas bouger.
Et tu parlais d'évolution de la loi, et on voit aussi que la loi bouge, elle change parfois, ou en tout cas il y a des annonces parfois qu'ils ont faites en fonction de faits divers ou d'affaires médiatiques, et que la question du viol, des violences sexuelles, elle est aussi traitée, tu disais d'ailleurs Rugiata, il y a certains parfois soit comme des faits divers, et on voit bien qu'il y a aussi du voyeurisme là-dedans, etc., soit par le biais d'affaires qui concernent des personnes connues et donc qui vont être mises en avant parce que c'est un peu people, etc. Mais il y a une autre manière aussi de traiter le sujet. Et finalement, ça va avoir une influence sur les législateurs parce que s'il y a une affaire très grave, il faudra montrer qu'on réagit. Les médias sont très importants pour montrer, pour parler du sujet. Et on sait que le fait que les médias ont traité cette question et non seulement ce que vous avez fait avec YouPress, mais aussi ce que les médias mainstream ont fait, mais il y a quand même peut-être encore des choses que la société doit faire évoluer dans la manière de traiter cette question de manière publique, la question des violences sexuelles. Ça ne se résume pas à des faits divers ou à des sujets people. Qu'est-ce qu'il faudrait faire justement là-dessus? Comment est-ce qu'on pourrait, les médias pourraient s'en saisir ou...
Je rejoins Laure, hein, ça progresse, même si il y a encore du travail évidemment, mais ça progresse parce qu'il y a de plus en plus, dans notre profession en tout cas, de journalistes spécialisés sur ces questions-là. Il y a de plus en plus de révélations qui ne concernent pas que des personnalités. Hein, c'était aussi l'objet de notre travail, c'est de parler de celles qui sont le plus invisibilisé. Il y a des nouveaux médias qui se montrent, qui sont spécialisés sur ces questions-là. Je pense à La Déferlante, notamment, qui est un de nos partenaires sur l'enquête Femmes à abattre. Et Mediapart aussi, notre premier partenaire, qui a eu quand même la première, je ne sais pas comment on dit en français, gender editor en français. une journaliste spécialisée sur les questions de genre, et ça va être à la fois Donc sur les sujets qui sont traités, sur ces questions-là, comment est-ce qu'ils sont traités, et aussi une vigie dans les rédactions sur et bah, tout simplement sur les relations entre les journalistes. Et du coup, ça progresse parce qu'il y en a de plus en plus aussi dans d'autres médias. Après, il faut sortir, mais ça ne concerne pas que cette thématique-là, du buzz, quoi. Ne pas parler qu'une seule fois d'un sujet, mais y revenir pour raconter ce qui se passe ensuite, l'impact sur la société, sur les proches. Et pour ça, en fait, il faut avoir du temps. Et le temps en rédaction, ça veut dire avoir de l'argent. Et puis pour les journalistes indépendants comme nous, c'est surtout ça qui pêche, c'est que... au final, on a enquêté pendant 3 ans et demi, pour ma part, 5 ans pour les autres membres du collectif qui avaient commencé avant. C'est quasiment une enquête qu'on a autofinancée par nous-mêmes parce qu'on nous disait que c'était un travail militant et pas un travail journalistique quand on demandait des financements, des bourses, etc. Et que c'était un travail d'ONG et pas un travail de journaliste. Et on a manqué de moyens pour aller encore plus loin, quoi. Donc... c'est comme les moyens humains qui manquent dans ce que tu disais, Laure, c'est de soutenir les personnes qui travaillent sur ces questions-là, quoi. À la fois les indépendants en les finançant et puis à la fois au sein des rédactions, d'avoir des spécialistes de ces questions qui ont le temps de travailler, quoi. C'est aussi simple que ça.
Et d'ailleurs, dans la femme à abattre, les sujets couvrent 58 pays et on sait qu'il y a beaucoup de ces pays où il n'y a pas assez de liberté de la presse non plus, que finalement ces sujets-là sont encore plus invisibilisés parce qu'il n'y a pas les médias, il n'y a pas YouPress ou Mediapart ou d'autres. Et donc il y a aussi peut-être une forme de mission aussi de certains médias en France de pouvoir aussi rendre visibles des situations dans des pays où ce type de journalisme est très très difficile à réaliser, en fait.
Oui, c'est vrai mais du coup on s'est rapproché d'ONG internationales qui avaient aussi des antennes un peu partout pour nous accompagner dans les endroits où il y avait très peu d'accès à l'information, mais en réalité il y a certains territoires où c'est impossible, quoi. Clairement.
Merci beaucoup. Avant de terminer, je voulais savoir s'il y avait des questions dans le public. Oui, madame.
Bonjour.
Bonjour.
Merci. Moi, j'ai une question pour vous. Quel conseil vous donnez aux journalistes qui veulent commencer à travailler sur ces questions-là? Est-ce que vous, par exemple, vous avez commis, je ne sais pas moi, des erreurs, peut-être pas de déontologie, mais est-ce que vous avez des conseils quand on est jeune et qu'on veut commencer à travailler sur ces questions-là?
Rougata, c'est pour toi.
Oui, déjà, il ne faut pas travailler tout seul. Et c'est pour ça que nous, c'est quelque chose qu'on a fait à l'échelle du collectif, parce que, évidemment, je ne vais pas m'étaler là-dessus en parlant des souffrances que nous, on a vécues en tant qu'enquêtrices, parce qu'à côté des personnes dont on parle, ce serait presque indécent. Mais on ne s'est pas assez protégés psychologiquement, je pense, parce qu'au final, quand on passe des jours et des jours et des jours à lire... des atrocités, parce que nous on allait vraiment à la loupe regarder comment est-ce qu'elles ont été tuées, et ben, elles ont été tuées parfois par des barbares, et donc les histoires sont barbares, et l'accumulation a été un peu compliquée à gérer, notamment pour certaines à qui ça renvoyait à leur propre trauma finalement qu'il fallait dépasser. Donc ne pas travailler seul, essayer au maximum de travailler en équipe, et peut-être se faire accompagner aussi par des spécialistes. Je sais qu'il y a on a été contacté après la publication de l'enquête, je pense, c'était avant, par une psychologue qui nous disait que attention, il faut faire attention, et puis surtout avoir une certaine sécurité financière aussi quand on est indépendant, pour pouvoir avoir le temps de travailler sur ces questions-là. Ça veut dire jongler entre différents boulots, ce qui est assez classique dans la vie de pigiste, hein, avoir les boulots qui rémunèrent un peu plus et qui sont peut-être un peu moins intéressants,
et qui permettent d'avoir du temps pour travailler sur, sur les sujets qui nous motivent davantage, parce que pour nous, finalement, c'était comme devenu un peu une mission, quoi, pour protéger les survivantes, pour protéger les prochaines, en racontant les histoires, quoi. On en a été même jusqu'à penser qu'on allait aller voir après nos amis de la justice pour que ça devienne une circonstance aggravante d'assassiner une militante. Mais bon, on verra. Et surtout, trouver des partenaires qu'on peut avoir dans la société civile, comme Amnesty, et puis dans les médias, quoi. Mais vraiment, enfin, ne pas, ouais, essayer de travailler au moins en binôme sur ces questions-là.
D'ailleurs, je tiens à dire que le travail des chercheuses et chercheurs Amnesty International, c'est aussi un travail qui expose à ce genre de difficultés. Et on est aussi, nos collègues sont aussi suivis, enfin aussi ce type de soutien psychologique, parce que voilà, ça ressemble assez fortement à ce que tu décris aussi. Et à chaque fois qu'on touche à ces questions, à des histoires aussi difficiles, faut aussi, pour pouvoir les restituer, il faut pouvoir se protéger aussi. C'est très important.
Et en même temps, c'est un moteur aussi. Ça reste un moteur aussi, parce qu'on se dit que ce n'est pas possible que ces histoires, elles restent, enfin qu'elles ne soient pas audibles et qu'elles soient pas visibles, quoi.
Oui, l'indignation, ça marche quand même pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Eh bien, il n'y a pas d'autres questions. Ben, je vais vous remercier beaucoup, Laure et Rugiata, pour ce temps d'échange. Et remercier le festival et vous dire à demain 17h pour ceux et celles qui voudront assister à la table ronde organisée par Amnesty demain. Voilà. Bonne soirée et bon spectacle.